C'est un grand sujet, bien sûr. Nous y consacrerons une bonne douzaine de réunions. Nous allons d'abord lire dans le psaume 87, le verset 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Autrement dit, « Toutes mes sources sont en toi, mon Dieu ». Dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Moi qui suis une source d'eau vive. » Ainsi, l'Écriture, je prends à témoin ces deux passages, mais il y en a beaucoup d'autres, l'Écriture nous informe que Dieu est source pour nous, source de tout bien, source de tout ce qui nous est nécessaire. Toutes mes sources sont en toi. Et quand on parle de source, on pense tout de suite à des sources d'eau, bien sûr, et les sources d'eau forment dans l'ensemble de la révélation de Dieu un thème essentiel, et ce thème traduit ce que Dieu est pour l'homme. Rappelons-nous ce dernier mot, pourrait-on dire, de la Bible, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Joël annonce pour le millénium qu'une source sortira de la maison de l'Éternel. Ainsi, l'eau vive a une source, cette source est la personne de Dieu. Et cette eau vive, qu'est-elle? Elle est l'Esprit de Dieu en tant que aliment et source de la vie. L'eau vive, Esprit de Dieu, source de la vie. En ce temps, c'est-à-dire avant que le Seigneur ait repris à lui ses élus, l'eau vive nous vient de Dieu, l'eau vive par conséquent aliment spirituel, breuvage spirituel, comme dit l'apôtre Paul, vient vers nous et renouvelle, fortifie notre vie en Christ. Ainsi, notre vie chrétienne est une vie divine qui doit être constamment alimentée, abreuvée par cette source qui vient de Dieu. Si la source est coupée, si nous nous coupons de la source, il est certain que la vie va s'étioler. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Et par lui, avec Dieu et par Dieu. Et Jésus-Christ est celui en qui et par qui le lien avec Dieu a été renoué. Nous étions séparés de Dieu, vous le savez, ce lien avec Dieu, lien vital, lien nécessaire, a été renoué par Jésus. Et la prière prend une place essentielle dans cette relation nouvelle que nous avons avec Dieu par Christ. La prière prend donc une place essentielle. Dieu est source d'eau vive, il est appelé aussi le Père des esprits, et Jésus est appelé le Prince de la vie. Or, la volonté de Dieu c'est que les rachetés de son Fils vivent avec lui, vivent avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que ceux qui sont les hommes rachetés de la terre, les régénérés, vivent avec lui, par Jésus-Christ bien sûr, mais vivent avec Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et la prière participe donc au partage avec Dieu, puisque elle est la fonction essentielle de cette relation avec Dieu. Alors elle participe au partage, à un partage avec Dieu, au partage de sa vie, au partage de sa volonté. De sa volonté, la prière, nous le verrons, mettra la volonté de celui qui prie à l'unisson de celle de Dieu, le partage de la puissance de Dieu. Dieu ne veut pas garder à lui sa puissance, il a dit « rien ne vous serait impossible », il est allé jusque-là, alors que rien n'est impossible, nous le savons, à Dieu seul, mais rien ne vous serait impossible. Si vous saviez prier, si vous saviez prier avec foi, rien ne vous serait... Donc Dieu veut partager sa puissance, il veut partager sa volonté, partager sa puissance. Et bien entendu, au-dessus de tout, c'est le, on pourrait dire le couronnement de tout, il veut partager son amour. Et tout cela parce qu'il partage sa vie, bien sûr, partager son amour. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Vous voyez toujours les réserves, je le signale en passant, les réserves qui sont dans l'Écriture et sur lesquelles passent les gens qui professent des théories à caractère, disons, rationnel, des théories selon lesquelles, quand on a le salut, on ne peut pas le perdre. Tout cela n'est pas dans le relief de la révélation, mais nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous sommes devenus participants de Christ. Donc, vous voyez, il y a une participation, c'est-à-dire un partage. Un partage. Et Pierre dit dans sa deuxième épître, chapitre 1 et verset 4, et il faut lire le verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Voyez-vous, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire, indispensable à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, c'est-à-dire au moyen d'une relation. La connaissance, c'est une relation, c'est une communion. Au moyen de la communion de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Afin que vous, par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire que vous soyez dans le partage avec Dieu. Dieu veut donc partager, que cette idée s'implante en nous, elle est indispensable, nécessaire, c'est la volonté de Dieu de partager. D'ailleurs, disons ceci, exprimons-le nettement, le propre de Dieu dans son action à notre égard, le propre de Dieu est de se donner lui-même. Dieu est le Père des Lumières. Et qu'est-ce que fait la Lumière? Elle rayonne, elle envoie ses rayons, et par ses rayons, elle envoie ses bienfaits. Lumière, chaleur. Dieu se donne, Dieu est Lumière. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il est seulement chargé d'éclairer autour de lui. Dieu est Lumière, le sens de cette belle et spirituelle affirmation de l'Écriture, c'est que Dieu donne. Dieu donne. Dieu se donne lui-même. Il est lumière et il est le Père des lumières. Il est lumière et il envoie la lumière. Il se donne lui-même. Pour partager. Et puis, nous avons une autre pensée qui peut venir à notre secours et corroborer ce que nous venons d'affirmer là maintenant, c'est que les rachetés de Christ sont membres du corps de Christ, ils sont membres. Nous le savons, ce n'est pas là, nous l'avons déjà dit, seulement une simple comparaison. Le corps, bien sûr, ça sert de comparaison quand on compare un corps humain avec des membres, différents membres, et tous les membres sont du corps, oui. Mais il y a dans la notion spirituelle de corps une réalité. C'est un corps spirituel. C'est une maison spirituelle dans un certain sens. C'est un corps spirituel. Eh bien, les rachetés de Christ sont donc membres du corps de Christ. Et Éphésiens nous dit que il a donné Christ pour chef suprême à l'Église, et le mot tête est même employé. Je crois d'ailleurs me souvenir que dans le grec c'est plutôt tête, n'est-ce pas? Il l'a donné comme la tête de l'Église, la tête du corps. Alors, dans le corps de Christ, il ne peut pas y avoir de cloison. Il faut qu'il y ait des relations, des communications, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait communication, que nous pensions à la comparaison elle-même d'un corps physique, n'est-ce pas? Bon, ou que nous pensions directement à la réalité spirituelle, le corps spirituel, nous comprenons bien qu'entre la tête et les membres, il ne peut qu'y avoir des relations continuelles si le sang, notre sang n'allait pas partout, si le travail de notre cerveau n'intéressait pas tous les points de notre corps, il est évident qu'un grand mal s'ensuivrait, n'est-ce pas? Il y aurait des paralysies, des membres qui tomberaient, qui seraient atteints de gangrène, etc. Il faut donc des communications saines, constantes, entre les membres et la tête, si bien que la prière et ce mode, il n'est pas le seul. Attention, prière, surtout prise dans un sens restrictif, c'est-à-dire parole adressée à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, la prière est essentiellement, disons, le mouvement des membres vers la tête. Elle est l'expression essentielle de la confiance des membres dans la tête, de l'amour des membres pour la tête, et quand je parle de la tête, je ne parle plus seulement de Christ, mais de celui que Christ révèle et de celui qu'il est, n'est-ce pas, le Dieu puissant. Voilà donc déjà un aperçu sur la prière. Elle est une relation vivante, nécessaire. Dieu est une source d'eau vive, source de toutes choses. Nous avons dans les Éphésiens ceci, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il faut que Christ remplisse de sa plénitude son Église, son corps est rempli de sa plénitude. Donc il y a nécessairement des échanges, des mouvements, et la prière participe à une place privilégiée à ces mouvements. Une autre considération qu'il faut maintenant faire entrer pour comprendre au fond, la prière, ce que je m'efforce de faire, c'est de vous faire comprendre la prière dans les raisons profondes qu'elle a. Une autre considération dans ce même but, c'est celle-ci. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais entre savoir une chose et en avoir tiré toute l'utilité, toute l'essence, il y a un pas. Alors, c'est pas tout de savoir, il y a des gens qui savent beaucoup de choses et qui ne font rien de ce qu'ils savent. Alors, il ne faut pas que nous soyons, nous chrétiens, comme cela. Par conséquent, Dieu est une personne, c'est à considérer ça. Il faut y réfléchir. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il est une personne? Oh, bien entendu, on peut faire une étude théologique là-dessus. Je l'ai faite devant mes élèves, là, de l'école biblique de Bièvre et ailleurs. Bon, ben ça, c'est une étude qu'on fait devant les élèves. Il faut leur donner tous les éléments de théologique qui concourt à établir que Dieu est une personne. Mais pour nous, nous allons voir seulement des points caractéristiques de cela. Eh bien, prenons Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. » On pourrait dire en français « celui qui est », bien sûr, mais on a préféré conserver cette forme « celui qui suis ». C'est-à-dire celui qui existe, et celui qui existe toujours, si bien qu'on a traduit cette désignation qui est, vous le savez sans doute, le Yahvé de l'Ancien Testament, YHVH en français, en alphabet français, le tétragramme hébreu, je suis, qui par altération a donné Jéhovah, par altération seulement a donné Jéhovah. On a traduit dans nos Bibles par l'Éternel, parce que on ne pouvait pas répéter constamment « Je suis celui qui suis », alors on a mis l'Éternel. Le Yahvé est traduit dans nos Bibles par l'Éternel, dans l'Ancien Testament. « Je suis celui qui suis ». Dans cette désignation, il y a d'abord le « je ».« Je ». Et le « je », n'est-ce pas, quelqu'un qui peut parler d'abord et puis dire « je », n'est-ce pas, celui qui parle, celui qui pense, celui qui s'affirme ainsi, est bien une personne. « Je », c'est bien la personne qui parle, le sujet, et qui désigne une personne. Et puis, alors, dans différentes déclarations, le Seigneur répète, se plaît à redire, « Je suis Yahvé, je suis l'Éternel, je suis celui qui y suit, je suis l'Éternel. » Et puis aussi, « Vous saurez que je suis l'Éternel. » Lorsque Dieu annonce quelque chose qu'il va faire, quelque chose de particulier, quelque chose de surnaturel, vous allez voir cela et vous saurez en voyant cela que je suis l'Éternel. Il a donné par conséquent des manifestations, des preuves de ce qu'il était, l'Éternel, l'Éternel Dieu. Et il dira même, alors dans Ésaïe, nous pourrions nous reporter à Ésaïe, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Enfin, on devrait bien se le rappeler, cette déclaration, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'a oublié aujourd'hui, parce qu'on voudrait transporter la gloire de Dieu, on voudrait en couvrir toutes sortes de moyens humains qui sont employés par le diable abondamment, et on voudrait en faire des moyens de Dieu. Moi, je vous déclare, mes amis, que Dieu ne veut pas et n'acceptera jamais cela. Ce qu'il veut, c'est des hommes faibles, des hommes qui n'étaient rien, dont il a fait, lui, ses rachetés, qu'il choisit comme il a choisi les apôtres, de malheureux pécheurs, des pécheurs dans les deux sens. Pierre était un pécheur au lac, et il se reconnaît devant le Seigneur un grand pécheur aussi. Voilà, il a pris des pécheurs il les a pardonnés, il leur donne des dons, des ministères. Voilà les instruments de Dieu. Voilà ses bouches, voilà ses pieds, voilà ses têtes, n'est-ce pas? C'est cela. Et Dieu ne veut pas autre chose. Il veut cela. Alors, cela est incident. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc, le Seigneur a un nom. Puis, au chapitre 43, et au verset 12, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. Vous voyez que c'est le langage d'une personne. Non seulement cette personne s'affirme comme le Dieu unique, mais elle parle d'elle-même en disant « c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, qui ai agi de ces différentes manières, et c'est moi qui saisis, et personne ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. » Et puis, le Seigneur Jésus, lui-même, a repris dans ses déclarations, et ce n'est pas parce que cette forme pouvait s'imposer dans le langage concis qui était le sien, mais cela n'est pas par conséquent simplement quelque chose d'incident, pourrait-on dire. Non, c'est quelque chose qui est en relation avec Yahvé lorsqu'il dit « Je suis ». Le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Et dans le « je suis », il y a le rappel de Yahvé. Hein? Ceux qui ne croient pas à la divinité de Dieu, qu'est-ce que vous voulez, sont des gens absolument déconcertants. Hein? Des gens qui, devant les yeux desquels un voile malheureusement est tombé. Je suis le chemin, je suis le vrai cèpe, je suis roi, je suis enfin, n'est-ce pas, l'alpha et l'oméga. Et le Seigneur Jésus l'a dit en terminant, clôturant ce livre, la Bible, le livre de la révélation de Dieu, au verset, chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comment un homme, comme le disent ceux qui écartent la divinité et la préexistence par conséquent de Dieu, comment peuvent-ils se concilier leur néfaste idée avec ceci, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et puis là c'est bien Jésus, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. » C'est le Dieu unique qui se manifeste tantôt comme le Père, tantôt comme le Fils et tantôt comme le Saint-Esprit, mais chacune de ces personnes pouvant parler à l'autre et parler de l'autre. Eh bien c'est cela, c'est comme ça que la Bible nous instruit et c'est comme ça qu'il faut rester instruit. Je suis. C'est donc, Dieu est donc une personne. Et la prière sera donc une relation utilisant la parole, surtout la parole, mais pas uniquement la parole, nous allons le voir, mais une relation utilisant la parole, la prière est essentiellement une parole vers Dieu. Elle est donc la relation qui utilise la parole de la personne humaine à la personne de Dieu. L'homme a été créé semblable à Dieu, il a été créé par conséquent déjà une personne. Remarquez que les animaux ne sont pas des personnes. Les animaux ne sont pas des personnes. Dans la Genèse, par exemple, Dieu dira de l'homme et à la femme, il sera dit plutôt que Dieu s'adresse à l'homme et à la femme, il leur dit, il leur parle, tandis qu'aux animaux, la formule n'est pas employée. Il ne parle pas aux animaux, il ne dit pas quelque chose aux animaux, n'est-ce pas? Il leur dit à l'homme et à la femme, quand ils sont créés, il leur parle, parce que ce sont des personnes. Alors, il y a donc une relation de la personne humaine à la personne de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui permet cette liaison. On a quelquefois voulu faire une comparaison avec le téléphone, évidemment elle est un petit peu hasardeuse, mais disons simplement ceci, c'est que si alors nous voulons prendre cette comparaison, nous dirons que, évidemment, pour qu'il y ait, puisse y avoir conversation entre deux personnes qui sont éloignées dans l'espace, eh bien, il faut un moyen, un fil, mettons, qui les relie, n'est-ce pas? Eh bien, là, il n'y a pas besoin de fil pour les relier, il n'y a pas besoin d'onde porteuse d'un message non plus, n'est-ce pas? Mais il y a un lien spirituel, un lien d'esprit, et c'est le Saint-Esprit qui assure ce lien. Le Saint-Esprit de Dieu qui est lui-même Dieu. Il permet cette liaison, et on peut dire que le Saint-Esprit est chargé de cela. Cela entre dans sa mission, dans la mission du Saint-Esprit, que de permettre une liaison entre l'homme qui prie et le Dieu qui est prié. Aussi faut-il réellement avoir audience auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut véritablement que le Saint-Esprit soit là. Si nous prions sans que le Saint-Esprit nous assiste, sans qu'il soit là pour établir la relation avec Dieu, nous assurer la présence de Dieu, eh bien nous prions dans le vide. C'est bien, n'est-ce pas, ce qui se fait partout où l'on prie sans le Saint-Esprit, et on prie sans le Saint-Esprit lorsque déjà on n'a pas adopté la position qui est indiquée dans l'Écriture, la position qui est celle de l'homme devant Dieu, n'est-ce pas, celle de l'homme repenti, celle de l'homme pardonné, celle de l'homme régénéré. Si l'on n'a pas pris cette position, si l'on n'a pas pris, nous le verrons aussi, la position de l'obéissance, eh bien le Saint-Esprit ne peut pas établir la communication. Alors nous prierons dans le vide. Et si l'on a dans le cœur toutes sortes, la conserver, toutes sortes de choses qui sont absolument contraires au renoncement, le renoncement que Jésus a placé à la base de toute vie chrétienne, eh bien, si l'on a gardé ça, le Saint-Esprit n'établit pas la relation, il ne peut pas l'établir, et par conséquent, on prie dans le vide. La puissance du Saint-Esprit est seule capable de nous mettre dans la présence de Dieu. Pour parler à quelqu'un, il faut être devant lui. Eh bien là, il faut que nous soyons devant Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui le fait. En conséquent, vous voyez déjà, n'est-ce pas, cette condition majeure, imposante. Bah, le Saint-Esprit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, eh bien, et si le Saint-Esprit, lui, qui, vous savez, ne fera rien, bien entendu, en dehors, je dirais, des grandes consignes spirituelles, eh bien, par conséquent, si, n'est-ce pas, le Saint-Esprit n'agit pas, n'établit pas la liaison, notre prière est vaine, absolument vaine. Hébreu 11, 6, il y a là un verset que nous connaissons bien, Hébreu 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas ? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'il croie que Dieu existe. Ce n'est pas là, ici, un rappel d'une sorte de croyance, c'est-à-dire de position, en quelque sorte philosophique, n'est-ce pas? Non, il s'agit de la foi, de la vraie foi, cette foi dont parle tout le chapitre. Or, il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de désigner particulièrement les incrédules, ceux qui sont loin, ou les athées, n'est-ce pas, ou les agnostiques, non. Or, sans la foi, la foi dont il est parlé dans le chapitre, avec laquelle tant d'hommes ont fait des choses extraordinaires, eh bien, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il ait une foi telle, n'est-ce pas, que pour lui, Dieu est une personne ici, présente devant lui, il s'adresse à ce Dieu qui est présent. Ben, voilà la portée de ce verset, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que Dieu va entendre sa prière et donner suite à cette prière. Rémunérateur, il va donner suite, il va donner les exaucements qui seront selon sa volonté. Mais... alors, nous sommes obligés maintenant de dire, n'est-ce pas, l'homme est une personne en relation avec la personne de Dieu, deux personnes sont en présence dans une prière individuelle, c'est très bien, mais il faut savoir tout de suite et se rappeler aussi que l'homme est infiniment petit devant Dieu, qu'il est faible et qu'il est pauvre. Aucune prière n'a de sens, n'a de valeur de la part d'un cœur qui se croit quelque chose. Ça c'est radical. La prière est une... le livre des Proverbes dit même que la prière de celui qui n'obéit pas, n'est-ce pas, est une insulte à Dieu. Eh bien, là, n'est-ce pas, un cœur qui conserve en lui... une forme ou l'autre de l'orgueil, n'est-ce pas, peu importe cette forme, mais qui conserve de l'orgueil et qui s'amuse à ce qui croit être quelque chose, qui croit avoir sa valeur, qui parle comme le pharisien, vous savez, de la parabole du Seigneur Jésus, « Je te loue, Père, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, comme ce publicain qui est là dans le temple avec moi, comme ce publicain, je te loue. » Alors là, n'est-ce pas, vous voyez, la prière n'a eu aucun effet. Il faut savoir que l'homme, et que soi-même, bien entendu, ne pas le savoir pour la généralité des hommes, mais pas se l'appliquer. Il faut à soi, n'est-ce pas, s'appliquer cette connaissance que l'homme est faible, qu'il est pauvre, pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce qui veut dire à peu près ceci, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de l'esprit, le règne de l'esprit, ils y sont. Ils y sont dans le règne de l'esprit, il est à eux, c'est un présent, il est à eux, le règne de l'esprit, ils y sont. Ceux qui sont les pauvres en esprit, les humbles en esprit, dira le livre des Proverbes, humbles en esprit, les pauvres en esprit. Cet homme qui se sait faible, qui se sait pauvre, a grand besoin de Dieu. Et il ne peut vivre que dans la dépendance de Dieu. Et il faut bien que cette dépendance s'exprime pour que l'homme soit vrai, n'est-ce pas ? L'homme sera vrai s'il est véritablement dans la relation avec Dieu, relation qui a notamment et surtout la prière pour expression. Alors l'homme sera vrai, c'est là qu'il est vrai. L'homme n'est pas vrai dans une relation distendue avec Dieu. Enfin, être vrai, ça ne veut pas dire simplement avoir gardé, reçu et gardé une doctrine aussi juste que possible. C'est pas ça. Être vrai, c'est être vrai dans sa personne spirituelle, en tant qu'homme spirituel, être vraiment dans la lumière de Dieu. C'est ça qui s'appelle être vrai. L'homme sera vrai s'il sait qu'il est dans cette dépendance de Dieu et s'il peut, dans cette dépendance, s'exprimer à la satisfaction de Dieu. L'homme régénéré a besoin de cette plénitude de Dieu qu'il trouve en Christ. Nous aurons l'occasion de revenir sur la plénitude de Dieu, qui n'est pas à confondre, je vous le dis tout de suite, avec la plénitude du Saint-Esprit. Mes amis, cette confusion-là est une confusion presque tragique. La plénitude du Saint-Esprit et la plénitude de Dieu sont des choses différentes. L'une est au commencement, en principe au commencement de la vie chrétienne, la plénitude de l'Esprit. La plénitude de Dieu, on y arrive à la fin. N'est-ce pas ? Si vous l'aviez au commencement, la plénitude de Dieu, alors vous ne commettriez aucun écart, aucune... vous seriez déjà des saints, tout confectionnés. Vous savez, n'est-ce pas ? Et c'est pas ce que Dieu fait, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas, ça ne fait pas, n'est-ce pas, des saints tout confectionnés. Ça donne la puissance, la sagesse, n'est-ce pas, l'intelligence, puissance, sagesse, intelligence et amour de l'Esprit pour plaire à Dieu, selon la foi, et la foi utilisant cela, n'est-ce pas. Voilà ce que ça donne la plénitude du Saint-Esprit. Et puis alors, en Christ, il faut puiser la plénitude. Toutes les perfections de Christ, allez les puiser en lui, vous avez tout pleinement en Christ. Alors il faut aller prendre par la foi. Mais cela demande des combats, ça nécessite des combats, cela nécessite le temps de notre séjour que le Seigneur nous accorde sur la terre, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'est la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul disait, et cela au chapitre 17 des Actes, et au verset 28, chapitre 17 et verset 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être... le 27 alors. « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous. Donc, il est vrai. Alors, il faut que chaque fois que nous prions, quand nous nous mettons en prière, il faut que nous sachions que Dieu est prêt. Il ne s'agit pas de le dire simplement et puis de sanctionner ça par un alléluia collectif, n'est-ce pas ? Dieu, le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia, hein ? Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'en avoir une pensée ferme. Il s'agit d'en avoir une pensée ferme. Dieu est le véritable. Il n'est donc pas un Dieu irréel. Il est le véritable. Il n'est pas non plus étranger à nos besoins. Et la prière est alors une relation qui s'exprime entre la personne humaine et la personne divine qui sont vraiment là confrontées. Il y a une confrontation spirituelle dans le domaine spirituel, une véritable confrontation. Et c'est ce qui fait, chers amis, que ça c'est un chapitre peut-être un peu particulier, ce qui fait que les hommes qui sont allés loin dans la pratique de la prière sont allés loin non seulement parce qu'ils ont prié longtemps, beaucoup et tous les jours des heures entières. Non, ce n'est pas tellement ça, c'est que ils ont su pratiquer vraiment la prière et tout en étant des hommes marchant d'une manière digne du Seigneur, des hommes obéissants en esprit, n'est-ce pas, et en fait. Et alors, ils sont allés loin dans la prière, et ils ont alors réalisé un véritable contact avec Dieu. Un contact qui s'est traduit par toutes sortes de mouvements dans l'âme. Des mouvements, je ne parle pas d'une fausse exaltation, naturellement, exaltation psychique, exaltation mystique, non, mais des joies du Saint-Esprit, n'est-ce pas, un véritable contact avec Dieu, et ils sont même arrivés à obtenir sur le champ la réponse de Dieu. obtenir sur le champ la réponse de Dieu. Nous avons eu ça, fut un temps, dans un groupe de prière qui se réunissait tous les jours. Ça se réunissait tous les soirs, pendant des mois. Eh bien, nous étions un petit groupe de prière et nous avons réalisé cela. Ce n'était pas une voix extérieure qui parlait, c'était la voix de l'un de nous qui prophétisait. Il y avait, n'est-ce pas, une grande ouverture à la prophétie qui était véritablement, alors là, la parole de Dieu. Et je me souviens de ceci, de cette impression magnifique, c'est que quand j'entendais cette voix, une voix quelconque de l'un de nous, nous étions peut-être une douzaine, qui répondait, n'est-ce pas, qui répondait à la prière, eh bien, je n'avais pas l'impression d'entendre un frère ou une sœur, mais j'entendais Dieu. Ben, j'oubliais absolument, je ne faisais même pas attention à l'identité de la personne qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Et c'était magnifique, n'est-ce pas ? Absolument magnifique. Le contact était alors là, direct, n'est-ce pas ? Étroit, solide, avec Dieu. Et c'est à cela qu'il faudrait que nous arrivions, mes amis. Il ne faut pas que, par la force des habitudes, nous retombions dans un mode de prière. On a l'impression de parler, on ne sait pas trop ce que devient notre langage, n'est-ce pas ? On n'a pas du tout le sentiment d'être en la présence de Dieu. Il faut que nous ayons ce sentiment d'être en la présence de Dieu. Et pour cela, à nous, au début, n'est-ce pas, de partir dans la prière comme il faut. Pour terminer ce matin, j'aimerais simplement vous indiquer d'ores et déjà que la prière va revêtir, en plus de ce que nous venons de dire, une utilité. Alors, l'utilité de la prière, ça, elle va être magnifique, n'est-ce pas, pour aller très vite. Je vous dirais que la prière nous permettra d'abord de travailler avec Dieu. On ne peut pas travailler avec Dieu, n'est-ce pas, sans la prière, de travailler avec Dieu au salut des hommes. L'intercession, vous le savez, sera le principal moyen, la principale voie de cette prière. Mais il faudra, n'est-ce pas, que la prière soit très active si nous voulons travailler avec Dieu. Et nous ne pourrons pas entreprendre de travail qui serait un véritable travail avec Dieu sans cette prière. Puis, par la prière, nous aurons aussi à évincer les soucis, les angoisses, les inquiétudes, n'est-ce pas, et tout ça. Malheureusement, il y en a trop encore parmi nous qui vivent dans des combats non victorieux, alors ils sont toujours dans les soucis, dans les difficultés, ils butent constamment. Alors là, il faudrait tout de même qu'il y ait une issue à cette situation-là. Ça peut pas durer tout le temps, ça, n'est-ce pas ? Et il faut que nos soucis, nous apprenions, comme nous y sommes invités, ne vous inquiétez de rien et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, faites-les, là, apportez-les devant Dieu, dites, Seigneur, voilà mes soucis, les voilà mes soucis. Bon, alors Dieu, il les enlève. Alors il faut que nous apprenions ça. Et puis, l'utilité de la prière sera d'obtenir le Saint-Esprit, non seulement par un baptême du Saint-Esprit, mais il faudra vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est une belle chose de dire « je suis baptisé dans le Saint-Esprit » et puis de marquer la date sur une carte, hein. Mais c'est une autre chose que de répondre à l'invitation de Dieu dans les Éphésiens 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit, maintenant, en tout temps, soyez remplis. » Ah, sentir en soi la présence du Saint-Esprit, quand on ne la sent plus, on est malheureux. Alors, ça, la prière permettra d'obtenir et de rester dans la plénitude du Saint-Esprit, de demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Puis la prière aura un rôle de protection énorme, un grand rôle de protection. Une protection sur nous, une protection sur nos proches. Oh, nous pouvons faire un bien énorme dans ce domaine-là, un bien énorme, protéger nos enfants. Puis, mais nous avons à assurer notre propre croissance spirituelle. La croissance spirituelle, elle a un besoin énorme de la prière, pauvre et misérable que nous sommes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une croissance spirituelle, tout cela. Je ne veux pas vous citer les textes maintenant, mais il y en a. Et puis, nous avons, pour toute action, je parlais tout à l'heure de travailler avec Dieu, mais il y a des actions de toutes sortes qui sont à faire, parce que nous manifestons dans la vie. Alors, quelles que soient les actions, que ce soit d'abord l'exercice d'un ministère, le témoignage de toute l'Église, eh bien, la prière va ouvrir les écluses des cieux, comme on dit souvent, c'est-à-dire une source de puissance pour l'action. Pour l'action. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous devrions dire, le Seigneur Jésus agit, nous aussi nous agissons, et de la même manière, avec la même puissance. Et c'est parce qu'il agit que nous agissons. Il est la tête de l'Église, mon Père agit, moi aussi j'agis. Eh bien, c'est la même chose pour nous, la même chose, n'est-ce pas? Et puis enfin, les difficultés survenant dans l'Église, difficultés qui sont à vaincre, oh là là. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ah, quel rôle, n'est-ce pas? Alors là, il y a des difficultés à vaincre, il y a des fausses doctrines qu'il ne faut pas laisser comme ça dans l'Église, laisser s'éterniser. Il faut les balayer. On balaye le sol de la salle, il faut balayer le sol spirituel, je pourrais dire, le terrain spirituel sur lequel l'Église se tient, n'est-ce pas, de toutes les fausses doctrines. Il y a des divisions qui sont en germe. Par la prière, il faut briser tout ça, il ne faut pas attendre que ça se manifeste. Si on attend que le mal soit fait, n'est-ce pas, on a laissé victoire à l'ennemi. Mais il faut cela, le relâchement de la foi, on le constatera dans toutes les assemblées, ça. Il y aura toujours des gens qui vont se relâcher, parce que le plus dur dans la vie chrétienne, c'est de durer. Le plus difficile, c'est de subsister, de persévérer jusqu'à la fin. On a vu tout à l'heure, pourvu que, n'est-ce pas? Si vous maintenez fermement ce que vous avez reçu du Seigneur, alors il y a tout cela, le péché de l'un ou de l'autre, il y aura des frères, des sœurs et nous-mêmes qui pourront tomber dans le péché, n'est-ce pas? Eh bien, la prière est là, mes amis, pour se secourir, s'aider les uns les autres. C'est ça l'Église. Et puis, la prière permettra de déraciner, par conséquent, les hérésies, de balayer les jalousies, les animosités, les malentendus, et de ramener le flot vivifiant de la grâce divine dans l'Église constamment. Alors, chers amis, quand nous sommes en commun, ne prions plus pour mon cousin, ma cousine, pour mon grand-mère, ma grand-mère, ou pour qui vous voudrez, n'est-ce pas? Gardez ça pour votre prière personnelle, c'est légitime que vous pensiez à ceux qui souffrent et qui sont malades. Toujours est-il qu'il faut le faire avec intelligence, en sachant, n'est-ce pas, se laissant guider par l'esprit. Attention, ne pas prier pour les irréductibles de la même manière que l'on prie pour ceux qui se sont ouverts au Seigneur, n'est-ce pas? Bon, mais ceci étant, quand nous sommes en commun, nous avons tout cela à faire. Nous avons tout cela. Il ne faut pas que nos églises déclinent. Et si elles déclinent, c'est parce que la prière n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle, n'est-ce pas? Alors il faut absolument, par la prière, ramener la grâce divine comme un flot. On parle souvent d'un flot, n'est-ce pas? Le flot de l'amour de Dieu. Eh bien, cela, il le faut par la prière. Amen.